Gouinement lundi. Votre phare dans la nuit.
Bonsoir, vous êtes bien sur Gouinement lundi, l'émission de radio qui prend le haut des ondes féministes chaque quatrième lundi du mois en direct sur Fréquence Paris Pluriel et à réécouter en podcast. Ce soir, on plonge sous terre, direction le terminus du RERQ. Ticket de métro non obligatoire, on s'embarque pour un aller-retour chaud et humide de transport textuel. Pour voyager en toute tranquillité, quelques consignes de sécurité.
RERQ est un réseau d'autrices alliées autour de textes manifestes queer, cru et cu. RERQ écrit, lit, performe ce qui n'est que trop rarement visible. RERQ explose le genre triste et la syntaxe molle, la police des corps identifiés, identifiables et la littérature officielle. RERQ serpente entre les mots d'individus qui racontent leurs perturbations non linéaires dans le genre et la sexualité.
Attentive, ensemble, on accueille ce soir 5 membres de ce collectif. Élodie Petit, Claire Finch, Camille Cornu, Rebecca Chaillon qui devrait arriver sous peu et Etaïne Tsfer pour nous parler de leurs textes et de leurs poèmes. Bienvenue à vous 5.
Merci.
Alors, Élodie Petit, tu es artiste, performeuse et fondatrice des éditions Douteuses. Bonsoir.
Bonsoir.
Claire Finch, tu es autrice, performeuse et doctorante en études de genre à Paris 8. Bonsoir
oui,
à toi,
bonsoir.
Bienvenue. Etaïne Tsfer, tu es autrice, artiste, plasticienne. Bonsoir.
Bonsoir.
Camille Cornu, tu es autrice de romans, de nouvelles et de poèmes. Et ton dernier roman, Habilité sociale, a été publié chez Flammarion en 2018.
Oui, bonsoir.
Bonsoir. Donc, on accueille bientôt Rebecca Chaillon, qui devrait arriver bientôt, donc qui est autrice, performeuse et metteuse en scène et comédienne. Donc, vous êtes 5 là, enfin, vous allez être 5 sur les 6 membres du collectif RERQ, qui compte également Wendy Delorme, qui est romancière, autrice, et dont le dernier roman, Le corps est une chimère, a été publié en 2018 au Diable Vauvert. Alors, peut-être pour commencer, est-ce que vous pouvez nous dire quand est né le collectif RERQ et si vous vous connaissiez déjà toutes les 6 avant de lancer ce projet ? Qui veut commencer ? Etaïne ?
On se connaît pas toutes ensemble, à 6, mais par contre, chacune se connaissait entre nous. Enfin, Claire connaissait Camille, on connaissait aussi Élodie de nom. Et par rapport aux éditions douteuses, moi, je connais très bien Wendy, puisqu'on a fait très longtemps, pendant plus de 10 ans, on a fait du dragging ensemble. Voilà, donc il y avait des liens, pas forcément à 6, mais par contre, il y avait une envie commune. On en a beaucoup parlé avec Claire, puisqu'on s'est retrouvés à Paris 8, en fait. Où chacune fait son petit bonhomme de chemin. Et il y avait cette envie qui était de travailler à plusieurs, de travailler sur... de retrouver en fait des auteurs, des autrices qui bûcheraient vraiment sur les mêmes sujets que nous, en fait. Le côté explicite, le sexe, la sexualité, le genre. Et en fait, on s'est dit qu'on connaissait assez de monde pour pouvoir se réunir. Et c'est ce qu'on a fait.
Ouais, après, il y a eu aussi vraiment le... la possibilité de le faire comme nous brûlons, comme le moment idéal en fait pour cimenter quelque chose et pour faire une première expérience en fait ou pour concrétiser un élan en fait qui venait de discussion, c'est rassemblé qu'une fois, enfin c'était voilà un premier jet en tous les cas.
Donc comme nous brûlons qui était ce festival féministe qui a eu lieu il y a un an à la station à Paris où il y avait aussi de la performance, de la danse, de la musique, c'est ça ?
En septembre 2018. Ouais.
Gouinement lundi.
Alors, nous sommes donc ce soir en plateau avec Élodie, Camille, Etaïne et Claire du collectif RERQ. Donc, nous continuons notre discussion avec, pour l'instant, nos 4 invités, mais bientôt, Rebecca Chaillon nous rejoindra. Donc, ce collectif RERQ, comme vous l'avez commencé à l'expliquer, c'est donc un collectif qui propose des lectures performées de textes érotiques et porno queer. Alors, vous avez toutes les 4 des profils, des parcours et des styles très différents. Qu'est-ce qui vous rassemble dans ce collectif ? Est-ce qu'il y a un peu une ligne rouge, une unité commune qui vous lie ? Claire ?
Oui, c'est clair. je pense Claire. Que c'est beaucoup comme a raconté Elodie, c'est qu'on avait surtout cet événement. Et en fait, cette question autour de qu'est-ce qui nous rassemble, c'est quelque chose qui est toujours en discussion. Parce qu'on ne veut pas être trop définitive d'un mouvement, mais... Je pense qu'on travaille tout et toutes dans une pratique avec un texte. Certains d'entre nous ont aussi une pratique théâtrale ou performative ou de recherche, etc., artistique. Mais qu'il y a quand même un texte au centre de ce qu'on fait en général. Et c'est quelque chose qu'on essaie de construire ensemble. C'est très insolide à l'instant. C'est quelque chose qui est en flux total.
Et par exemple, est-ce que vous avez des sessions de travail communes pour écrire vos textes ou est-ce que c'est chacune de son côté qui écrit son texte? Comment est-ce que ça se passe un peu ce travail d'écriture?
Déjà, je pense que ce qui nous réunit, ouais, c'est pas la pornographie, puisque vous avez dit ça au début et ça m'a un peu choquée parce qu'on fait pas de la pornographie. On fait pas de la pornographie, quoi. Et ensuite, oui, pour avoir des temps de travail en commun, c'est quand même super dur à organiser quand on est 6. Donc on se heurte à ça, aux limites du collectif, je pense. Et on est en train en ce moment d'écrire un texte qui sera un petit peu plus collectif et qu'on va présenter pendant la Queer Week. Donc je sais pas si on doit en dévoiler sur ce texte ou si c'est une surprise, quoi.
Ça reste une surprise, mais ce sera une lecture interactive et le public va pouvoir participer.
Et c'est dans le cadre d'un sex party aussi, ça c'est...
C'est important.
Important, bien sûr.
Ça
ne
dévoile rien,
non.
Dans le cadre d'une sex party, malgré tout.
Et du coup, est-ce que cette volonté... Malgré tout, vous parlez du fait que vous ne faites pas de la pornographie, mais vos textes parlent quand même souvent de sexualité, de rapports sexuels, de fantasmes, d'érotisme. Et dans votre manifeste, on peut lire que RERQ explose le genre triste et la syntaxe molle, la police des corps identifiés, identifiables et la littérature officielle. Alors... Qu'est-ce que c'est que cette littérature officielle, cette syntaxe molle? Est-ce qu'il y avait certains types de textes que vous n'en pouviez plus de lire? Ou est-ce qu'au contraire, il n'y avait rien et il y avait un manque, un vide à combler? Voilà. Est-ce que c'est venu aussi d'une espèce de besoin face à quelque chose d'existant ou au contraire d'inexistant?
Existant au sens où nous, on travaille déjà sur ces questions-là, donc ça existe. Ensuite, que ce soit invisibilisé, c'était vraiment ça, je pense, la chose qui nous a réunis et qu'on a envie de... Mais tout simplement de faire exploser dans ce sens-là, c'est-à-dire de faire entendre des voix qui ne sont pas forcément entendues, de faire lire des textes qu'on ne voit pas forcément en librairie ou qui ne sont pas publiés de manière officielle chez des éditeurs officiels.
Je pense qu'il y a aussi un gros manque dans le sens où dans la culture française, on n'est pas vraiment amené à entendre de la poésie. Enfin, là, par exemple, à Comme nous brûlons, c'était très particulier. On avait vraiment ce set entre deux concerts. Donc, en fait, c'était... où ça passe ou ça casse, mais de faire une lecture de texte et de poésie à 21h, c'était risqué, en fait. Mmh. Et au final, c'est aussi un truc qu'on ne voit pas dans le paysage queer ou qui nous manque dans des réseaux féministes, c'est vraiment d'écouter des textes, de la littérature, de repenser ensemble à des visibilités, de langage, enfin tout ça, quoi. C'est comment on s'exprime, comment on raconte nos sexualités, qu'est-ce qu'on en fait. Enfin, c'est un truc outre-Atlantique qui est très présent, par exemple.
Claire?
Ouais. Oui, quelque chose qui juste inspire mon implication dans ce qu'on fait, c'est cette question de l'explicite et de ce qui n'est pas trop représenté. Donc moi, en tant qu'auteur, autrice, Gwyn, je pense qu'il y a très peu de textes, surtout les textes expérimentaux, comme Elodie a dit, des textes poétiques et ou qui utilisent des formes poétiques dans peut-être un format prose, mais quand même, qui parlent de la sexualité, mais qui représentent explicitement des actes sexuels. On n'est pas tous dans cette démarche, mais pour moi, c'était quelque chose que je voyais manquer, mais profondément. Et j'avais envie d'écrire... Moi, j'utilise, par exemple, des codes pornographiques. Je dis pas... Et je parle pas du tout pour tout le monde dans le collectif, mais il y a un travail qui est de réapproprier parfois, de pirater, j'aime bien ce mot, certains codes pornographiques afin de faire une sorte d'expérimentation littéraire avec. Et je pense qu'il y a quelque chose de profondément Gwyn dans cette démarche.
Oui, complètement.
C'est-à-dire de profondément Gwyn, ça veut dire quoi pour vous?
Bah, qu'on est ensemble, toute Gwyn, qu'on propose en fait un vrai... que ça va même dans une continuité en fait d'autrice qu'on admire, qu'on partage. Enfin, c'est des goûts littéraires qu'on partage, qui sont des auteurs Gwyn, enfin, qui sont des... C'est juste ça, aide-moi.
Et t'as une... Bah,
mais c'est vrai que, enfin, moi j'avais un peu ce fantasme, un peu de faire comme ce collectif aux États-Unis qui s'appelle Sister Spit et qui réunit effectivement beaucoup d'autrices qui travaillent aussi sur ces questions et qui, à un moment donné, ont décidé de faire comme une espèce de tournée en bus, quoi, et d'aller de ville en ville et de monter des shows comme ça, des lectures. Et c'est un peu cette espèce de fantasme, moi, qui me guide avec RERQ.
Et j'adore ça aussi parce que du coup, c'est clair, c'est quelque chose qui n'existe pas vraiment. C'est de faire des performances littéraires dans les espaces des bars, par exemple. C'est ça qui est trop cool de Sister Spit, c'est que ça prend un projet, un objet littéraire et ça les met dans les espaces de fête. Et nous, on fait pas que ça, mais il y a certainement une sorte d'essai de redéfinir certaines frontières entre le travail de l'auteur, le travail de l'artiste queer. Qui est dans ce projet de Sister Spit, qui comprend notamment, par exemple, Michelle T, mais aussi d'autres auteurs et autrices, qui, moi, je trouvais juste trop fun.
Justement, on va en reparler après de cette question de la performance, de comment voilà, vous vous mettez en scène aussi. Et peut-être une dernière question, là, c'est peut-être vos références aussi à vous, littéraires, ou voilà, qu'est-ce qui vous a nourri aussi avec cette écriture-là.
Avec Claire, on s'est toujours assemblés autour d'une auteure qui est tellement importante pour nous, qui s'appelle Cathy Hacker, et voilà, qu'on adore profondément, dont on suit la démarche.
Du coup, moi, j'ai découvert effectivement grâce à Claire, en l'occurrence. Mais après, on peut citer Monique Wittig, je pense que ça fera pas, enfin, ça fera consensus, certainement.
Fran Ross, ça, c'est un auteur dont Etaïne a écrit un postface, non, une fois,
oui.
Dans le livre Oreo, on a parlé un peu de ça.
Disons que c'est des auteurs qui sont à la fois... Il y a la question racisée aussi qui est importante pour moi, en l'occurrence. Et c'est important dans le collectif RERQ. On a toutes vraiment, je veux dire, à la fois dans nos manières d'écrire, à la fois dans nos manières d'être au monde. Et aussi, on a une espèce de diversité qui est extrêmement importante. Et je pense que c'est ça aussi qui se passe sur scène. C'est toutes ces nuances-là, en fait. C'est six voix différentes qui résonnent ensemble et dans lesquelles, en fait, chacun peut aussi trouver quelque chose, quoi. Pour moi, c'est ce paysage-là, en fait, il est vraiment important. C'est de montrer qu'on a différents types de corps, qu'on a différents types de sexualité, qu'on a différents types de manières d'écrire aussi. Donc, je crois que c'était un peu aussi notre force. Donc, on reste des individus, mais on est en train d'avancer ensemble sur quelque chose, effectivement, qui est en construction. C'est vraiment très neuf, quoi.
Et alors, dans cet élan que vous avez, nous, on avait une interrogation qui était née en ayant assisté à votre performance et en ayant lu vos textes. C'était en mai dernier, on a réalisé une interview avec Maïk Batman qui participait au Porn Yourself Festival. Donc elle, plus du côté art visuel. Et elle nous parlait justement de sa vision du... Alors elle, pour le coup, elle parlait vraiment de porno queer. Elle disait un des problèmes parfois qu'on rencontre, en tout cas dans le visuel ou dans la vidéo, c'est que c'est parfois des représentations qui sont très intellectualisées et qui vont moins vers le fait de voir une image et avoir envie de se branler, tout simplement. Est-ce que c'est une préoccupation que vous avez à l'esprit? Est-ce qu'il y a une idée aussi de créer la jouissance chez la personne qui vous écoute, qui vous lit? Enfin, voilà, est-ce que ça, c'est dans vos réflexions? C'est peut-être un peu intime comme question, je suis désolée, vous n'êtes pas obligée de répondre, mais ça nous posait question, cette question du porno queer dont on parle de plus en plus en France, en tout cas. Et au final, voilà, est-ce qu'on se branle dessus ou pas? Est-ce que c'est pas forcément le but premier? Enfin...
Bon, on a annoncé que c'était un strip audio, alors oui, on va dire certaines choses quand même.
Ouais, moi, c'est vrai que j'aime bien être un peu chaude quand j'écris des choses. Et c'est, pour moi, c'est une façon à la fois de toucher à quelque chose qui, pour moi, est très intime, qui est, qui pour moi, casse certaines peurs que j'ai par rapport à une voix littéraire, on peut dire. Mais j'ai fait, par exemple, un atelier qu'Elodie a fait sur les écritures pornographiques. Et pour moi, c'était une sorte de révélation totale, où j'ai compris qu'il y avait plein de choses qui, pour moi, étaient très difficiles à dire. Et que, justement, les codes pornographiques libéraient quelque chose de ça. Et donc, bon, maintenant, mon processus, c'est de commencer toujours par un petit porno. Moi, je l'appelle comme ça, mais encore... j'écris des scènes, en fait. J'écris des scènes de sexe que moi, j'aime bien, que... Voilà. C'est pas tout vrai, bien sûr, mais bon, c'est des scènes de sexe qui viennent de ma tête. Et puis, je cale des références littéraires et philosophiques là-dedans. Et ça est devenu pour moi un processus qui est très essentiel pour moi.
Et pour vous autres, peut-être, une réaction là-dessus ou...
Peut-être, la question de la pornographie aussi, c'est vrai qu'on s'en emporte pas du tout de la même manière chacune d'entre nous. Moi, j'ai pas l'impression d'écrire des choses extrêmement trash ni pornographiques, en fait. C'est vraiment dans des évocations, des images, en fait, qui sont assez fortes. Et je crois que ça fonctionne aussi, ça fait, à l'écoute, ça fait autant mouiller qu'un porno extrêmement frontal. Je pense que toutes ces... Enfin, l'écriture, en tout cas la lecture, ça repose sur comment on crée les sensations et qu'est-ce qu'on... Enfin, voilà, c'est quelque chose de très sensuel. Donc, moi, il suffit des fois juste d'écouter quelque chose et c'est aussi fort qu'une image, en fait.
Mais est-ce que vous avez pu être confronté, par exemple, à des discours, parce qu'il y a aussi des discours féministes qui peuvent être justement un peu anti, anti-porno, si c'est pas forcément le mot, mais voilà, ou une sexualité un peu normée. Est-ce que vous avez l'impression de transgresser même à cet endroit-là?
Ça existe encore?
Eh oui. Pas ici en tout cas, mais je sais pas, vous avez été confrontée à ça par exemple?
Non.
Bah non.
Pas du tout?
Non, pas du tout.
Non, je pense que la question qu'on a pu avoir par contre, c'est effectivement, enfin, personne de nous dans le collectif n'est trans par exemple. Et donc, comment on en parle? Enfin, on a des amants, des amantes trans aussi. Enfin, voilà, c'est pas des choses inconnues, mais peut-être que parfois, certaines personnes ne se sentent pas représentées en fait dans ce qu'on dit. Et ça, malheureusement, c'est, ça fait partie du jeu. C'est-à-dire qu'on parle aussi de nos expériences et elles sont telles qu'elles sont, quoi.
Merci beaucoup. À présent, on accueille Rebecca Chaillon dans le studio.
Chaillon !
Bienvenue.
Wesh.
Bonjour à toi.
C'est une entrée.
Et on va également accompagner de pair la chronique de la JL. Avec
bonjour.
Sophie.
Salut Sophie.
Bonjour Sophie. Sophie, on te retrouve pour notre chronique mensuelle de l'AGL, l'Association des journalistes LGBTI. Et ce soir, tu nous parles sexualisation et invisibilisation des lesbiennes.
Oui, exactement. Sexualisation et invisibilisation, des mots de 5 et 7 syllabes. Donc, pour une première chronique, j'envoie du lourd. Alors moi aussi, je suis lesbienne. Et ça... Ces petits gémissements, ces orgasmes parfois bruyants, c'est visiblement ce qui est attendu de moi par beaucoup de mes consoeurs et confrères journalistes. Il faudrait que je jouisse, fort et souvent. À leur décharge, les chiffres sont formels. Selon une étude américaine de 2017, nous, lesbiennes, atteignons l'orgasme 86% du temps lors de nos rapports sexuels, contre seulement 65 à 66% pour les femmes hétéro ou bi. Autant dire que nous sommes des sources d'inspiration en termes d'hétérosexualité, des muses du sexe. Et si l'amant parfait était une lesbienne, c'est d'ailleurs le titre d'un article publié dans Le Monde il y a 2 semaines. Avec ce conseil, coupez vos ongles. Et là, on mesure le fossé qui nous sépare du reste de l'humanité. On nous présente donc dans les médias comme des super amantes, comme des partenaires sexuels dont vous ne reviendrez pas, mesdames. Et j'avoue, ça a pu me flatter. Même si modestement, je n'y suis pas pour grand-chose. Là où ça commence franchement à me déranger, c'est quand ça vire au safari du pieu. Quand un magazine comme Elle présente le fait d'être lesbienne comme la dernière mode orgasmique, le truc à tenter. Extrait d'interview d'un article publié en septembre dernier, « T'as qu'à essayer si tu ne me crois pas ». Mais moi, j'ai pas envie d'être un objet sexuel qu'on utilise pour parvenir enfin au plaisir. J'ai pas envie d'être un fantasme pour tous. Pourtant, pour la 3e année consécutive, en 2018, le mot « lesbienne » est le plus recherché sur les sites de streaming porno. Les médias ont tellement de mal à nous sortir de la rubrique « sexo » qu'en les parcourant, j'ai l'impression que mon identité de lesbienne se niche toujours là, autour de mon clitoris et de mon vagin. Et j'ai beau les aimer, je trouve ça un peu réducteur. D'abord parce que ça évince complètement mon utérus, qui pourtant ne se situe pas bien loin et dont on ne parle plus beaucoup. Il faut dire qu'un énième article sur un énième report de la procréation médicalement assistée peut finir par lasser même les plus friendly des rédactions, mais moi, ça n'en finit pas de me mettre en colère. Et puis surtout, je trouve ça réducteur parce que, oh surprise, j'ai aussi, nous avons aussi un cerveau. Et alors là, dans les médias, c'est l'encéphalogramme plat. Prononcer, écrire lesbienne quand il s'agit de sujets de société, c'est apparemment très compliqué. Le mot lesbienne est tellement connoté cul qu'il semble inenvisageable pour les journalistes en dehors de l'évocation de nos sexualités. Alors, dans Le Parisien, ce sont par exemple des couples de femmes qui réclament l'ouverture de la PMA. Sur France Info, c'est une jeune femme homosexuelle qui est rouée de coups. Dans La Dépêche du Midi, Oura, elle est lesbienne. C'est un des rares exemples, et ce n'est pas un détail. Car nous ne sommes pas des euphémismes. Petit rappel Wikipédia, l'euphémisme est une figure de style qui consiste à atténuer des idées considérées désagréables. Donc, ne pas dire lesbienne, c'est évidemment lesbophobe. Ne pas nous nommer clairement, c'est minimiser notre existence. Rendre enfin visibles les lesbiennes dans leur diversité, c'est d'ailleurs un des grands chantiers de l'assaut des journalistes LGBTI. L'idée, c'est de faire comprendre aux autres journalistes qu'il ne faut pas avoir peur de ce mot, qu'il est important pour redonner aux lesbiennes leur lettre de noblesse en tant qu'êtres pensants inscrites dans la société. Et, spoiler alerte, je pense bien que nous allons y arriver. aussi vite et aussi fort que nous jouissons.
Yes! Yes! Yes!
Merci beaucoup Sophie, on se retrouve le mois prochain pour une nouvelle chronique de la JL.
Good morning lundi.
Alors avant d'entamer notre première pause musicale, on accueille donc Rebecca.
Oui, bonsoir.
Rebecca, du coup juste une petite question pour t'accueillir. Qu'est-ce qui t'a donné envie de rejoindre RERQ?
Attention. Etaïne. Merci. Ça fait très longtemps que j'étais amoureuse d'Etaïne.
Oh.
Et qu'elle me propose quelque chose. Même si c'était pas l'amour, je me suis dit que c'était un bon début.
C'est une forme d'amour à plusieurs.
C'est ça, du coup, maintenant ça va beaucoup mieux. J'ai vraiment évacué tout désir et tout ça. Ou alors je le mets dans les textes maintenant. Non, mais l'idée de... Moi j'ai toujours écrit toute seule dans mon coin, dans le métro, ou pour les spectacles. Et donc l'idée de ne faire que quelque chose qui soit que de l'écriture, d'abord, et des lectures de cette écriture-là, ça me déplaçait beaucoup. Donc voilà, et d'intégrer une autre communauté, queer, lesbienne et tout, mais à travers quelque chose de culturel, d'artistique et tout, ça m'enjaillait beaucoup.
Merci. Bon, on va continuer cette discussion juste après une première pause musicale avec le morceau Oati, peut-être ça se prononce comme ça, mais je suis pas sûre, extrait de Crave, le nouvel album de Léonie Pernet. De retour sur le plateau de Gouinement Lundi avec Claire, Etaïne, Elodie, Camille et Rebecca qui nous a rejoint du collectif REERQ. Avec elle, tu es puissante et ensemble, vous êtes un bataillon en marche. Les armes du sexe faible sont ce qui vous rend forte, de ne pas en user les unes contre les autres. Et comme ça, tu luttes, chevillée à ta sororité. Donc je viens de lire un extrait du roman « Quatrième génération » de Wendy Delorme, qui fait partie du collectif mais qui n'est pas là ce soir. Donc on voulait vous poser un peu la question de savoir, est-ce que quand vous êtes en scène pendant la performance, est-ce que vous avez l'impression d'être un bataillon en marche, en fait, d'avoir cette puissance-là de vos six corps présents sur la scène?
Alors déjà, Wendy, on t'aime, tu nous manques.
Bisous Wendy.
Et ouais, quand on est sur scène, mais Camille. Avant aussi, pendant qu'on crée et qu'on voit la façon dont nos écritures à chacune vont devoir exister ensemble, en fait. Je pense que ça, c'est des moments dont on discute avant et où on a remarqué qu'on faisait des trucs différents, où on s'est demandé si on devait s'aligner sur quelque chose et où, en fait, on a décidé de faire une force de toutes nos différences artistiquement et littéraires.
Poétique. Moi, j'essaye quand même d'harmoniser Béga. Les choses avec du rouge à lèvres. Donc, j'arrive beaucoup avec une quinzaine de rouge à lèvres.
J'arrive un rouge à lèvres de deux couleurs différentes.
Ouais, voilà, j'essaie vraiment d'imposer un style, de ramener un style, une unité dans ce groupe, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'individualité.
On a pensé à mettre des costumes aussi.
On n'est pas d'accord sur la couleur des leggings, alors on a laissé tomber.
Mais ouais, et puis on construit quelque chose. C'est vrai qu'on a des individus avec des types d'écriture et des physiques différents et des histoires différentes et tout. Et moi, je suis Keblo sur les Spice Girls, en fait, dans ce groupe, quand même. On est six, mais
c'est
principalement, moi, mon moteur, c'est de reformer un groupe de filles comme les Spice Girls, mais... Donc voilà, donc on a vraiment ce truc de... On le réfléchit pas, on se dit pas, toi, t'es là, et toi, t'es l'autre, mais
on
quand
essayé,
même...
mais on n'a pas réussi.
Ouais, c'est ça, mais il y a quand même des fortes... Moi, je sais que quand je suis venue à la mutinerie, j'étais en armure, quoi. J'étais avec mes bottes à poils roses, mes 112 collés. J'étais un peu choquée que certaines soient un peu simples dans le style.
Casual.
Mais bon.
Mais c'est vrai que sur scène, on essaie aussi quand même, je pense, d'être vraiment ensemble. Et je pense que ça fait partie de ce qui touche le public. Enfin, dans les retours qu'on a eus, les plus beaux retours qu'on nous a fait, c'était « on sent que vous êtes vraiment ensemble, on voit que vous vous connaissez depuis super longtemps », ce qui n'était pas forcément vrai, mais c'était quand même super agréable de savoir que les gens avaient eu cette impression-là et qu'on donnait ce qu'il y avait de beau quand on était sur scène, c'était de voir qu'on pouvait être ensemble, parce que finalement, on est quand même ensemble et on a quand même créé des liens assez forts avant de faire REERQ ou après. Pendant quoi.
Pendant.
Ou encore.
Tout le temps. Moi, pendant, hein, quand je fais des haltères avec des godes avec vous, je vraiment, je me soude.
En osmose, quoi.
Ouais.
Et du coup, vous explorez donc une forme de littérature érotique, en fait, donc, qui n'est pas directement visuelle. Mais vous êtes sur scène. Donc, comment vous faites pour incarner, finalement, dans vos corps, d'être un peu le vecteur et le support en même temps d'une excitation possible du public?
Tu sens pas l'ambiance dans la radio là?
C'est hot. Camille,
je sais pas si on écrit tous et toutes sur des expériences vécues. Enfin, pour moi, c'est important. Enfin, j'écris sur des trucs que j'ai vraiment vécu. Et du coup, oui. Et il y a quelque chose d'assez intime et du coup qui a pu être gênant parfois, mais je trouve ça beau sur scène, en fait, d'avoir ce... Enfin, de montrer ma gêne sur scène et j'en joue ou pas, mais juste je sais que je l'utilise, quoi, et que je sais que les moments où je vais me sentir spécialement gênée, je pense que c'est les meilleurs moments, même si c'est...
Très excitant quand t'es gênée, très très bien. Ouais. Non, mais il y a quelque chose de très performatif dans le sens où on répète... Pardon, c'est moi. Dans le sens où on répète pas. Avant, donc on est dans... T'as écrit un texte, voilà un peu. Ça, des fois, on lit nos textes sur Messenger. Moi, je vous avouerai que, n'ayant pas de smartphone, je lis pas quand les filles, elles postent des textes, donc je les découvre sur scène. Et qu'il y a quelque chose de très performatif. Donc, on est vraiment nus. Oh putain. Sur le plateau. Et donc, on est... Non, mais on est... Moi, ce que j'aime bien dans la performance, c'est le côté où on est transperçable. Enfin, les gens projettent des trucs sur nous, se racontent des trucs, voilà.
Et puis, on en joue, quoi, avec ce fanzine, en fait. On s'offre un peu... Ce fanzine, c'est des petites annonces qu'on a écrites et on a mis une adresse mail pour que les gens nous répondent.
D'ailleurs, on attend.
Voilà, on a écrit.
D'ailleurs, on dit vraiment fanzine parce que moi, je...
On a déjà eu ce débat.
J'aimerais bien que la clôt.
Mais je voudrais pas qu'on se fasse...
Mais t'étais pas là à la dernière réunion. On avait fixé une... Ouais. Je crois qu'on avait dit qu'on disait fanzine.
Alors moi, Rebecca Chaillon, je dis fanzine.
On avait dit fanzine, mince. C'est la transgression. Moi, je sais pas si je suis pour ça, personnellement, mais c'est pas le sujet de...
Bon, on va régler. Après, je sais pas, enfin, c'est... Rebecca, par exemple, toi, t'as une vraie pratique performative, donc t'as l'habitude de la scène.
Et d'être nue, surtout.
Et d'être nue aussi. Enfin, en tout cas, de pas avoir peur de ça. Et je pense que c'est vraiment ce qui fait la force de ce que t'apportes aussi à REERQ, c'est ça. C'est un moment donné, faut qu'on y aille. Enfin, du coup, ça nous donne aussi cette envie de, bah, de mouiller le maillot, hein, comme on faisait une petite blague, mouiller la radio, tout ça. Et d'essayer... oui, c'était assez...
on est profonde, allez, vas-y.
J'essaye. Du coup, j'ai perdu le fil, mais...
En tout cas, l'élan que vous a donné Rebecca d'avoir cette habitude de se jeter sur scène, et d'être.
En tout cas, de tester des choses et de se permettre en fait d'oser certaines. Voilà.
Je suis quand même celle qui râle le plus parce que du coup, finalement, je suis performeuse, mais souvent elles sont beaucoup plus tarées que moi dans le fait de proposer des choses sans les avoir assez fait des protocoles ou assez réfléchi à pourquoi, comment et tout, on y va quoi. Donc finalement, c'est moi la performeuse qui est toujours en train de râler en disant mais attendez, vous êtes sûre qu'on fait Gouinement lundi là ou <d'autres personnes. rire> Voilà, ou tout le. Fin de, voilà.
Donc, j'ai des doutes sur la participation à cette émission.
Mais non, mais on est. C'est très
simple. C'était juste que. Elle pensait qu'on n'était peut-être pas prête parce qu'en effet, on a eu du mal à se. Bah, à définir une ligne officielle, commune, un truc qu'on pourrait dire publiquement et qui soit officiellement. Donc c'était juste ça.
Il y a beaucoup d'enjeux qui pèsent sur nous, j'ai l'impression. Ça va. Quand on médiatise les choses, quand on se rend public et quand on s'offre autant, on renvoie un message très fort à plein de gens. Donc allez-y, venez faire des trucs. Mais aussi, ça prend une place. Et donc du coup, il faut pouvoir être... Voilà, le fait de s'exposer là, de parler avec vous, de dire ce qu'on fait, ça l'ancre, ça le pose quelque part. Et donc c'est important, c'est une responsabilité. Donc du coup, voilà.
En même temps, moi, je pense qu'on se pose beaucoup de questions et on peut partager tout ça, tu vois.
Ouais, non, bien sûr. Non, mais... J'ai décidé de venir quand même, hein, même si je suis en retard.
En fait, c'est une séance sur le divan avec nous.
Pardon. Non, mais après, je me dis aussi que la force des mots de ce qu'on raconte émoustille, plaît, et qu'on a des corps qui sont devant nous. Donc, on n'est pas sur la lecture d'un roman qu'on n'a pas écrit. Donc, forcément, tout de suite, les gens associent ce qu'on est en train de lire à nous. Donc, ça crée du fantasme ou ça crée autre chose. Voilà, mais...
Et à ce propos, justement, moi, j'en parlais hors antenne, j'étais à votre performance à la Mutinerie. Et personnellement, j'ai vraiment été très touchée par cette performance. J'en suis ressortie un peu émue, un peu émoustillée, comme tu disais, Rebecca. Est-ce que vous la ressentez, cette émotion du public en face de vous? Comment ça se passe? Ça fait à faire un an? Vous avez fait 4, 5 performances, il me semble?
Non, ça date de septembre, donc ça fait quelques mois, en fait.
Ah d'accord, c'était ce « Comme nous brûlons ».
Oui. Ouais. Et ça fait 3 dates qu'on fait, non? 4 dates?
Non, c'est la 5e.
Répondez à la question. Comment vous la ressentez, cette émotion du public en face de vous?
On l'a ressentie très fortement Comme nous brûlons, ça c'est sûr. Parce que c'était notre première fois aussi et qu'on ne savait pas du tout comment on allait être accueillis. Et donc là, on s'est dit, ah ok, on est bien accueillis déjà, donc on a une place. On nous valide, quoi, en fait.
Je crois que ce qui est vraiment impressionnant, c'est quand même... Enfin, finalement, on fait des sets qui durent 40 minutes, voire plus. Et la qualité d'écoute, elle est assez folle. On s'attendait pas du tout à ça, en fait. Les gens sont pris, les gens, les jantes, sont pris là-dedans. Et du coup, nous, ça nous... Enfin, voilà, c'est, de toute façon, dans ces moments-là, c'est toujours c'est un échange d'énergie, c'est un échange de fluide aussi. Et ce que nous renvoie la salle, on le redonne aussi... puissance 1000, j'ai envie de dire, donc ça se nourrit, et c'est vraiment très beau, ça nous a beaucoup, beaucoup émus, et à chaque fois, alors c'est différent, à Bruxelles c'était différent, parce que la communauté LGBT est différente aussi, donc on n'attend pas forcément
partout
les mêmes choses.
C'est différent, ouais.
Voilà, donc...
À Lyon, c'était très pédé.
Ouais. Voilà.
Voilà. Et puis on était 4, deux accidentés. On était plus que 4, et...
Effectivement, il y a les aléas.
Une salle qui était très pédé blanc, enfin très gay, pardon, très gay blanc.
Donc
on
a changé.
On a cherché les filles partout.
Bon, on va justement avoir la chance d'entendre une de vos performances à la radio juste après une deuxième pause musicale. Donc on va écouter à présent Niman de Compromat, le nouveau projet de Julia Lanoé, chanteuse des groupements de Sultia et Sexy Sushi, mieux connue sous le nom de Rebecca Warrior. Cette fois-ci, elle s'allie à Vitalik pour créer une musique inspirée par la vieille techno berlinoise qui, selon ses propres mots, donne envie de lever les bras au ciel et de danser en pleurant à Off Gates. Unbeweglich aussehe, Wutbach.
Einstein. Ich bin Einstein unter einem Stein, unter einem Stein. Ich bewege mich so langsam, dass ich unbeweglich aussehe. Furtbach, Wildbach, Bäche von meinem Tränen. Niemand hört es, als ich schreie. 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 Niemand hört es, als ich schreie.
Oreilles, on vous propose ce soir une performance sonore en direct proposée par RERQ. Élodie, Claire, Camille, Étaïne et Rebecca, les micros sont à vous.
Annonce 15. Animal lactaire non vegan, à mamelles charnues mais tombantes, façon gants de toilette propre, cherche main solide pour soutien-gorge humain. Traite à 17h tous les jours. Cherche main sale pour faire de ma peau un torchon brûlant. Main menue pour couvrir 10% de ma surface de fesses. Crocs autorisés dans la partie grumeleuse. Main rugueuse, ayant exercé la plomberie plus d'une fois. Doigts tendus, détendus, démontables, rétractables, gogo gadget au poing. Doigts humides et sensibles bien accrochés. Ongles permis s'ils sont laqués comme des canards. Cherche main d'avenir aux lignes fortes. Et qui promettent un destin palpitant, plein d'aller-retour en Ouigo, pour s'aimer à distance. Mains non susceptibles qui acceptent de se voir remplacées par des jouets sexuels au nom de voitures de course, ou par des butternuts, selon la saison. Mains organes et paumes amplifiées, pour sentir mon cœur battre en dedans. Mains qui roulent de l'herbe dans des feuilles. Mains waterproof, réceptacle à jouir quand je sors de ma prison mentale. Main de mille feux déconstruite, main carnée en contraste, main bavarde signant sur mes étendues, main muette, main rythmée, main assurée à Niort et non sinistrée par d'autres usagères. Main gauche, avec annulaire dispo, sachant écrire des vœux d'amour éternel.
Annonce numéro 12. Je serai ton Audrey Lorde. Ton tapin sensible, ta fiancée couturée d'anneaux, ton trophée désirant, ton avaleuse de sabre, ton mirage en jockstrap, ta queue, tes nuits, ta vie. Mais pas ta mère, ni ta psychanalyse. Be my guest.
When we fuck lately, it's really quick. So, I ask, can we just like put some time aside? At least 3 hours. I want to fuck you for at least 3 hours. The length of a university seminar. If I don't taste his pussy, then it feels like it didn't even happen. I'm moving away from lowercase or small p politics. It's no longer sufficient just to have something in my cunt. As a nation, we need the immersive unity of synesthesia. Whenever we aren't together, I'm worried that he never existed, but I try not to act crazy. There's nothing to do about it, of course. Another contract named trust lines up next to bureaucracy and paperwork. And there's always something going on in the background that you can't control. I mean, look at globalization. It's been months since I fisted him, and I'm out of good lube. Where do you get good lube in Paris, anyway? I guess globalization's failed, because I still have to import my organic, unflavored, non-irritating, all-natural, paraben-free lube from San Francisco. I write porn as the cafe fills up. I want to make it all last longer. I need to pee, but don't move, because I'm coming back for you. I want to lick every part of the right edge of your cunt. I want to never work again because I'm busy licking your thigh. I want to move toward your asshole, bite the thick skin of your ass cheek, grab a handful of your hip and crawl on your back. Now I'm licking the back of your head where your hair's short again because you can get it cut for €5 in Belleville. I hope you don't mind me licking the back of your head. We need more time, but I know how to fix this. I put my right hand on your right shoulder. I move my left hand to your ass, move down and find the opening of your cunt. I lick my fingers. I put 4 fingers into your cunt and you're stretched between my left hand, pushing hard into you, my right hand on your shoulder, pulling you back into me. I want to lick the center of your back. I want to pull your ass up against me. Push your head against the bed with my other hand. Push into me. Pressure is always double. Force pushes force back. Sit back further on my hand pushing into your cunt. Small P politics, according to Emily Apter, is the everyday form. But the unexceptional is the interesting. We've put too much into obvious forms. And we forget about all the other stuff happening in the meantime. I looked at the clock the other day, and I know that as long as you fuck me for at least 6 minutes first, then as soon as I start to touch my clit, I'm officially less than 4 minutes away from coming. See if you can get all your hand in my pussy in under 10 minutes. I want you to do it for me. If I outsource the touching of my clit to you, then it all lasts longer. I'm running on the political platform that fucking you reinvents time and so reinvents labor. With you, it's big P politics all the time. Pledge allegiance to this epic pussy grammar.
Annonce 24. Pizza porno?
J'ai l'impression d'être dans un immeuble de 30 étages et que tous mes voisins hurlent et baisent. Je ne sais plus à quel étage j'habite. Pourtant, je suis seule en face d'un lac au nord de Glasgow. Toi, tu es à Paris. Tu dis que l'univers va exploser si on reste ensemble. Il y a de la distance entre nous et ça me semble sécurisant. Je t'entends résonner de loin, un peu partout en moi. Je prends mon temps. Plus tu resteras loin, plus tu te diffuseras dans chacun de mes muscles. Il y a 963 km qui séparent mon muscle deltoïde de ta veine jugulaire. Je perds mon sang-froid tous les jours, et le reste du temps, je prends l'avion. Si par hasard, on est enfin dans la même ville, on se demande où sont les explosions. Si elles sont de la même couleur que la distance dans une version plus saturée. On est ensemble à Glasgow et tu trembles. Je connais un geste pour maintenir toute la force de ton corps avec seulement 2 doigts et toute ma conviction. On n'a pas vu la couleur d'une explosion. D'ailleurs, j'avais éteint la lumière et tu m'avais dit « Finalement, on rallume, je voudrais te voir ». J'accepte parce que si tu savais que ça me gêne, je serais encore plus visible. De toute façon, tu ne verras rien, parce que moi-même, je ne sais pas trop. Je n'ai pas pris de décision définitive. Tu me demandes si je suis touchable. Tu le demandes en anglais et je réponds « Oui, mais évidemment, je m'interroge. » Comme parfois, subitement, on se sent traumatisé par quelqu'un qui est là à côté de nous depuis toujours. Si tu t'approches trop, tu ne verras plus qu'une seule partie. Ma nuque ou mes mains, qui en valent la peine, j'imagine, mais je ne peux pas vivre en pièces détachées. J'ai besoin d'au moins 1000 km d'élan et d'attente, et que le reste suive.
Annonce 23. Montreuil, Oise, Picardo, Caribéenne. Âge, Jésus. Vierge,
comme Marie, cherche Butch féminine au poil et au poil libéré. Amante amicale, aimant la boucherie, la poissonnerie, les voyages sans avion et se faire lécher la chatounette. Je n'ai pas de smartphone, donc aimer les lettres manuscrites.
Elle est assise les pieds dans le vide, un verre de vin rouge à la main. Elle est en face de moi, très proche, et je la regarde dans les yeux. Je suis debout entre ses jambes équerres. J'ai envie de la baiser doucement avec la langue et j'enlève le verre de ses mains pour le poser un peu plus loin. J'ouvre ta bouche avec la mienne et j'enfonce ma langue pleine salive en passant mes mains sous ton t-shirt. Je caresse le bas de son dos, je pétris ses reins. Elle met ses bras autour de mon cou, fait basculer ma tête, détourne mon col. Je bave contre ses lèvres en bloquant sa mâchoire avec ma main, te serre plus fort contre ma taille. Je veux ton sexe à ma hanche, je veux ton con contre ma peau. Son t-shirt enlevé, nos torses bouillants et nus, la techno forte. Mes mains ramènent son pantalon jusqu'à ses chevilles, son cul toujours au bord, ta chatte qui bave le coton. En bas de ses pieds, proche du sol, je remonte avec ma bouche contre ta peau, ses jambes poilues. Je passe longuement mes doigts contre ta culotte. Je remonte l'élastique plus haut que ta taille, que le tissu insiste contre ta chatte. Tu es surexcitée. Je bouffe ta chair et suce ta mouille à travers le tissu. J'ouvre jusqu'à ton sexe que je couvre de mon haleine. Je tourne autour et elle gémit. Je frôle tes lèvres lentement, puis je suce. Je veux ton jus et ta chatte épaisse contre mes dents. Je veux bouffer ton foutre et frotter mon nez au haut de ta vulve. Elle crie et je serre son cou. Tes pieds sur mes épaules, nous avons gardé nos chaussettes. Je te trouve magnifique et conséquente, insolente et belle. Mon poing proche de ton trou du cul à demi ouvert. J'appuie ma paume contre son anus et ta chatte couvre ma bouche. J'ouvre mon autre main et je l'appuie contre son entrejambe en te regardant dans les yeux. J'ai envie que tu t'assoies sur ma queue. En chaussettes, assis sur le canapé, un verre de vin à la main, je te tends la double bite. Tu l'humectes et m'humidifies. Elle me pénètre et je gémis. Je veux te voir t'asseoir délicatement sur cette queue et que tu l'avales entière. Je veux te baiser. Sublime, elle chevauche mes cuisses et s'empale sur moi, délicatement maniérée, en jouissance sourde. Ma bouche ouverte s'envoie, mes mains qui suivent son cul, mon visage ému de ton visage, ta bouche tordue.
Annonce 20. Cherche babysitter, horaire flexible. Selon résultat, pêche sur Tinder.
Voilà. I have a dream. Enfin, plus modestement, j'ai un rêve. Ce rêve, c'est intimidant. Je vous fais confiance pour l'accueillir sans jugement. On ose si peu dire ces choses-là. Dans mon sommeil, que je qualifierais de plutôt serein, c'est rare, j'ai vu, je vois, un régime de bananes, coupé en deux dans le sens de la largeur, une coupe parfaite, un jaune pâle muqueuse. Vous visualisez ? De type ovni amérissant dans les néons, jamais rose, posé sur un socle blanc, ces socles de galeries d'art post-Y-Cube qui traduisent l'esprit de notre époque. Petite fille obéissante sur socle, précarité, famille, patriarcat sur socle, ta mère sur socle, nos névroses sur socle, le futur sur socle. Je te prendrai volontiers sur ce socle, mais alors l'enjeu de ce rêve m'échapperait. Non, ne remonte pas ta jupe. Oui, continue de te branler. Non, trésor, tu ne peux pas goûter aux bananes. Elles ont une âme. Je me suis demandé ce que ces bananes souhaitaient me dire. Quel clin d'œil tortueux, comme un couteau de type surprise suisse qui fait saigner le cerveau. Coupée en deux. Je pense à une femme coupée en deux, aux illusionnistes des années 70, élégamment gantée d'une scie. Île, toujours des îles. Je ne rêve jamais d'îles, ni corse, ni grecque, mais dans mes rêves, il y a toujours de l'eau, paiement en liquide uniquement. Ils ouvrent des femmes souriantes et blanches avec des gestes à l'arrêt. Strike a pose, honey. Leurs cheveux ondulés, brillants comme d'écran. Ils ouvrent cette femme comme un fruit scandaleux. Imaginez si dans la phrase « ils ouvrent », on changeait le pronom en « île ». Pas forcément grec. Alors on piraterait toute la syntaxe, la vérité serait enfin ailleurs, la poésie aurait gagné et on pourrait se consacrer à des activités plus politiques. Des sex-parties par exemple. ou des pique-niques où les corps seraient pris en sandwich entre les herbes folles. À propos de sandwich, ce régime de bananes, vous suivez ? Parce qu'il me regarde, je le regarde, on se mate, c'est peut-être le début d'une grande aventure, si seulement je parviens à déchiffrer le message. Peut-être que ces bananes sont en réalité un fortune cookie. Il faut se glisser à l'intérieur et tenter sa chance. Peut-être qu'elle me raconte une histoire de faim ou de dévoration, autrement dit de sexe. Peut-être qu'elle rejoue mon désir post-colonial, ça joue aussi dans le sexe. Qu'elle me dévoile l'avenir, le god arty du futur, mais est-ce que ce serait pratique pour faire du sexe? Ou peut-être qu'elle devrait figurer dans mon prochain porno, encore du sexe. Ou qu'elles illustrent cette obsession que j'ai pour les podiums et les athlètes protéinés. Ça me fait bander vite du sexe. Mon amie Claire, qui m'apparaît parfois la nuit sous la forme d'un colibri semant des paraboles en lettres jaunes fluo, conclut souvent « Everything is feminism and everything is sex ». Mais si je lui donne entièrement raison et si toute chose embrasse sa fin, je ne vois absolument pas comment conclure sur une banane. Les rêves sont impénétrables. Les corps, heureusement, non.
Annonce 28. Ton prénom est celui d'une ville du Nord. Je t'ai dit mon mot préféré. Tu m'as demandé de ne pas oublier les cavalcades. J'ai rêvé de toi au solstice d'hiver. Tu m'as offert un hand spinner. Tu as dit que l'univers allait exploser si on restait ensemble. Je ne te cherche plus.
Merci beaucoup, RERQ.
Ouais, c'est clair, on peut se détendre maintenant.
Tout le monde est très émoustillé dans le studio. Bah, moi, la buée chaud, sur les vitres, ah, tellement il fait chaud. On va ouvrir la fenêtre après.
Non, mais là, je vais avoir super froid, là. Non,
mais... Je récise, on peut se mettre à poil, vraiment. C'est pas...
Ce genre d'hypersensibilité avec température.
Gwen mon lundi.
Donc, maintenant, on retrouve Isabelle pour une nouvelle chronique. LBT une fois. Oui. Isabelle, c'est à toi.
Oui, c'est à moi. Alors là, on va vraiment changer d'ambiance. Nouvelle année, nouvelle chronique. Et dans LBT une fois, on ira chaque mois, micro à la main, chercher un témoignage, une histoire, sérieuse ou pas, joyeuse ou pas, mais toujours vraie, de lesbienne, bi ou trans. Et pour inaugurer cette chronique, alors on démarre fort, hein, on s'attaque à du lourd, avec une histoire sur une figure absolument incontournable du monde LBT, qui concerne, je pense, environ 86% de l'audience de Goodman Lundi, et sans qui la vie de beaucoup d'entre nous serait tellement moins belle. Alors, il s'appelle Kopek, Chachimi ou Jean-Michel, et je parle bien évidemment du chat. Et ce soir, c'est un certain Océan qui nous raconte son terrible dilemme félino-sentimental.
Bah, moi, je suis dans la merde parce que j'ai une nouvelle amoureuse. Je suis hyper amoureux d'elle, et elle est allergique au chat. Et moi, j'ai un chat. Et j'ai vraiment un problème entre l'amour et les chats, ça c'est un... parce qu'en fait moi j'aimais pas spécialement les chats, j'étais pas obsédée par les chats du tout et je me moquais tout le temps des gouines à chats, genre je faisais même des blagues là-dessus régulièrement. Et la dernière grande histoire que j'ai vécue, c'était avec une fille qui était obsédée par les chats, qui voulait des chats, qui avait eu des chats toute sa vie. Donc elle m'a brainwashée, genre au début de notre histoire, tous les soirs elle me montrait des vidéos de chatons. C'était mon Kim Jong-un des chatons. Et donc évidemment au bout de quelques mois j'avais un chaton, je m'étais vraiment fait brainwasher. Et évidemment, elle pensait qu'un n'était pas assez, donc on a pris deux chats. Donc on a pris deux petits chats qui avaient tous les deux, trois mois, qu'on a trouvé au même moment, de deux portées différentes. Bon, c'était toute une organisation. Et donc j'ai écrit tout un des sketchs là-dessus, dans mon spectacle d'ailleurs. Et bref, donc ces deux chats. Sauf que quelques années plus tard, on se sépare. Et comme elle est tout le temps en voyage, elle ne peut pas garder les chats. Donc je garde les chats. Donc je me retrouve célibataire avec deux chats sur le dos, avec toutes les galères que ça implique. Et donc, j'ai donné un des deux chats, parce que là, les deux dans mon appart étaient vraiment, vraiment trop, et qui était plus le sien, et que j'ai donné à une amie de sa mère. Bon, voilà, avec quand même la possibilité de revoir le chat ou de recevoir des photos de temps en temps ou d'aller la voir si on a envie, donc ça, c'est cool. Mais du coup, là, j'ai plus que la petite, et sauf que voilà, je viens de rencontrer une fille merveilleuse qui a vraiment beaucoup de qualités, mais qui a un gros défaut, c'est qu'elle est ultra allergique au chat. Et du coup, là, c'est un peu la galère, c'est le début de l'histoire. Donc, je m'organise, je laisse le chat chez des amis, j'ai ma petite sœur qui habite au deuxième de mon immeuble, donc je descends le chat, je suis dans l'ascenseur avec la litière, les croquettes, c'est un peu galère, mais bon, déjà, c'est cool parce que c'est le même immeuble. Et le truc, c'est que les gens allergiques ne sont pas allergiques à l'animal lui-même. mais aussi au poil qu'il peut laisser, parce que c'est l'énergie à la salive, en fait. Donc, du coup, à chaque fois qu'elle vient, je dois changer les draps, faire le ménage. Et bon, du coup, ça laisse très peu de place à l'improvisation, ce qui est un peu relou. Donc, je passe une annonce à ce que quelqu'un veut prendre mon chat. Mais le problème, c'est que je me dis, si je me fais larguer dans quelques temps et que je me retrouve sans mon chat et sans meuf, je vais être vraiment déprimée chez moi, parce que j'adore quand même la présence de mon chat. Donc, pour l'instant, je ne sais pas encore comment résoudre cette équation. Et je continue à la descente chez ma sœur, qui va finir par en avoir marre aussi. Mais voilà, c'est vraiment pas de peau quand t'as des chats qui, en plus, au départ, que tu ne voulais pas forcément, mais auxquels tu t'es hyper attaché et que finalement, tu rencontres une meuf qui est allergique aux chats. Donc, à suivre, qu'est-ce qu'on va faire de la petite?
Alors, dernière nouvelle, Océan est toujours avec sa copine, mais on ne sait pas ce qu'est devenu le chat. Hein. Donc, j'en profite pour rappeler que le spectacle écrit par Océan, La lesbienne invisible, est repris en ce moment à Paris, à la Nouvelle Scène, avec Marine Baousson. Donc, si vous ne l'avez pas encore vu, allez-y.
Gouinement lundi.
Et Gouinement lundi, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à Claire, Elodie, Etaïne, Camille et Rebecca du collectif RERQ. On pourra vous retrouver le 1er février pour la clôture du festival Désir Désir à Tours et le 17 mars à l'occasion de la Queer Week à Paris. Peut-être que vous vouliez nous parler de vos petites annonces, Etaïne.
Bon, je suis désignée. Non, c'est que les petites annonces qu'on a lues là ce soir et que vous avez déjà croisées à la mutinerie il n'y a pas très longtemps et que vous avez vues dans le petit fanzine qu'on a fait avec Céline Le Gouaille, Pizza Porno, eh bien, vous pouvez répondre à ces petites annonces qui sont des annonces réelles. Et pour cela, il faut écrire à l'adresse d'RERQ, hello.rer.q@gmail.com. Donc on attend vos réponses.
Tu attends. on est plusieurs.
On vous conseille, je vais y arriver, aussi vivement d'aller voir le spectacle J'irai danser tes 20 ans de Mélodie Lauré tous les lundis du 4 février au 29 avril au théâtre Darius Milhaud à Paris. Merci aussi, on ira voir, hein. Merci à toute l'équipe de Gouinement lundi, Isabelle à la réalisation, Mathilde, Lucie, Serena et Juliette à l'animation avec moi ce soir.
Et merci à toi, Lila. On se quitte sur un reportage réalisé à Caen, où un lieu féministe et queer va bientôt ouvrir l'Aquarium. Rencontre avec Bérangère et Alice, deux des cofondatrices du lieu.
L'Aquarium, c'est une association qu'on a montée en septembre dernier, donc il y a 4 mois. Et l'idée, c'était de monter un lieu sur Caen pour visibiliser des actions féministes et queer, et aussi nous avoir un espace pour pouvoir organiser des événements, avoir un espace de sociabilité, avoir des ressources médiathécaires. Et du coup, l'objet vraiment de l'asso, c'était de trouver un lieu. On est parti du constat qu'il y avait un problème et qu'il y avait plein de gens qui venaient pas dans les bars dits classiques ou qui avaient du mal à trouver des ressources autres qu'au centre LGBTI avec qui on va partager l'espace. Mais qui est plutôt dans une politique d'accueil et de soutien. Nous, on voulait un truc un peu fun et peut-être un positionnement un peu plus radical.
Dans ce local qu'on a trouvé maintenant et dans lequel on fait du chantier en ce moment pour lui donner la forme un peu dont on avait envie. Et où il pourrait y avoir d'abord un bar, un café pour venir juste se poser, boire un coup. Mais aussi, dans les idées qu'on avait, c'était une espèce de médiathèque avec des livres, avec du film, du son. On aimerait bien aussi avoir moyen d'écouter des podcasts, de la web radio, des trucs comme ça. Je sais pas, ce dont j'aime bien parler, des fois, c'est une espèce de salon de coiffure autogéré qu'on aimerait bien faire de temps en temps. Donc c'est ça aussi, c'est laisser un peu une coquille vide où il y a moyen d'organiser et de faire venir des gens pour faire des trucs différents.
On a aussi décidé dans la petite charte qu'on a écrite qu'on visibiliserait d'abord / uniquement le travail de personnes queer et ou de meufs, parce que il y a plein de milieux dits alternatifs, notamment culturels, où c'est 90% de mecs cis, la musique, les expos, tous les plein de champs culturels, quoi. Mais par exemple, là, sur les premiers événements qui vont avoir, qui vont se mettre en place ici, il y a une expo sur la visibilité trans, il y a une conférence gesticulée sur la culture du viol, il va y avoir probablement des ateliers drag king, drag queen, et donc un espace, un plan libre, ça permet plein de choses en fait. Vous laissez de la place à ceux, celles qui en ont moins dans la société. Et du coup, on s'interdit pas de pouvoir inviter ou accueillir des collectifs qui font de la mixité choisie sans personne blanche. L'idée, c'est quand même qu'il y ait une convergence.